Donc comme vous l'a dit Régis tout à l'heure, moi j'appartiens au même laboratoire que lui, donc je viens de l'université d'Orléans, et je suis dans une autre équipe, une équipe d'entomologie, et dans cette équipe, moi je m'occupe d'un axe plus particulièrement qui s'intéresse aux interactions entre les arbres et les insectes. Et donc là, aujourd'hui je vais vous parler de l'émergence du puceron laniger dans les peupleries françaises. Donc le puceron laniger, ça a été notre modèle d'étude pendant plusieurs années. Avant de commencer sur le puceron, je vais juste faire un petit contexte un peu plus général sur forêt de plantation et insectes ravageurs. Et donc quand on regarde les forêts de plantation à une échelle un peu globale, bon, bah, assez souvent ces forêts de plantation sont des forêts d'essences exotiques ou d'hybrides interspécifiques, très productives, très vigoureux, en partie parce que en fait, ces arbres exotiques échappent aux phytophages de leur milieu d'origine. Donc ça leur confère en fait un gain en termes de croissance et de potentialité parce qu'ils échappent aux insectes phytophages qui leur sont classiquement associés. D'un autre côté, ces forêts de plantation, d'un point de vue structural, ben, c'est souvent des peuplements qui sont homogènes et qui aiment, souvent des peuplements monospécifiques, voire monoclonaux. Et généralement, dans ces peuplements, on peut avoir une faible diversité spécifique et structurale. Et là, on a plutôt donc des conditions qui sont assez favorables à l'apparition de ravageurs émergents, l'apparition de ravageurs introduits. Donc c'est plutôt un contexte qui est négatif en termes phytosanitaires. Alors par rapport à ces ravageurs émergents introduits, on a plusieurs cas de figure possibles avec les plantations d'essences exotiques. Vous pouvez avoir des ravageurs qui sont issus de la zone d'origine de l'essence. Un exemple assez caractéristique, c'est le Sirex du pin, qui est une guêpe qu'on va retrouver dans la zone eurasienne. Hein, vous avez son aire d'origine en vert ici. Les larves de cette guêpe sont xylophages. Dans sa zone d'origine, c'est pas du tout un ravageur significatif. En fait, c'est un insecte qui est très très secondaire. Par contre, ce Sirex a été introduit dans différentes parties du globe, donc les parties bleu foncé, Amérique du Sud, Afrique du Sud, Australie, Amérique du Nord. Et dans ces zones-là, c'est un ravageur significatif des plantations de pin, y compris de pin européen. Donc, sorti de son contexte d'origine, l'insecte qui était un ravageur plutôt secondaire devient un ravageur beaucoup plus important dans un contexte de zone d'introduction. On peut aussi avoir assez classiquement donc des problématiques de ravageurs exotiques introduits qui donc s'installent dans les forêts de plantation et causent des dommages importants. Un exemple assez caractéristique, c'est le capricorne asiatique qui peut poser des problèmes en populiculture, notamment en Amérique du Nord et sur d'autres essences, puisque c'est un insecte qui est très généraliste. Puis un dernier cas de figure, c'est l'apparition de ravageurs qui sont issus de la zone d'introduction. Donc votre arbre est introduit dans un environnement nouveau et les insectes de cet environnement nouveau s'adaptent à l'essence exotique qui a été introduite. Alors ici, plusieurs facteurs vont jouer sur cette capacité à s'adapter, à basculer sur l'essence exotique. Ça va être notamment l'ancienneté et la surface de plantation. Donc, plus votre plantation introduction est ancienne et plus la surface plantée est importante, plus les capacités de bascule sur l'essence exotique sont élevées. Il y a aussi un effet de la proximité taxonomique. Plus votre essence exotique est proche d'un point de vue taxonomique des essences locales, et plus les capacités de bascule des insectes locaux seront élevées. Un bon exemple de ça, c'est l'eucalyptus, qui est l'essence reine de plantation, qui n'a pas vraiment de cousins proches dans ses zones d'introduction. Donc la plupart des ravageurs associés à l'eucalyptus sont en fait des insectes australiens qui ont été introduits postérieurement à l'introduction de l'eucalyptus. Néanmoins, en Afrique du Sud et en Amérique du Sud, on a quand même des insectes relativement généralistes qui ont réussi à s'adapter à l'eucalyptus et qui du coup deviennent des ravageurs d'eucalyptus, alors qu'à la base, ils n'ont pas du tout l'eucalyptus dans leur gamme d'hôtes. Alors, si on revient à nos moutons, ou plutôt à nos pucerons, par rapport aux plantations de peupliers en France, on peut considérer que le peuplier cultivé est un arbre exotique, puisque une partie des cultivars sont issus d'espèces américaines, hein, Deltoides ou Trichocarpa. On a aussi des hybrides inter-américains. On a aussi des arbres qui sont quelque part semi-exotiques, dans la mesure où vous avez des hybrides eur-américains, donc avec un croisement entre le peuplier noir qui est natif et puis un peuplier nord-américain. Donc en termes de proximité taxonomique, on est quand même assez proche taxonomiquement, même si c'est un marbre exotique des essences, essences natives. Donc c'est plutôt favorable à la bascule d'insectes natifs sur ces cultivars exotiques. On a des plantations sur de grandes surfaces localement. On a une gamme large de cultivars, mais quand on regarde les chiffres de vente de plants, en fait, on n'a quand même qu'une dizaine de cultivars, donc une dizaine d'individus, qui va dominer assez largement le paysage populicole. Je crois qu'une dizaine de cultivars, ça représente à peu près 70% des ventes de plants de peupliers en France. Donc on a un contexte qui est finalement assez favorable d'un point de vue phytosanitaire à la bascule d'insectes natifs sur ces cultivars exotiques. Néanmoins, ben jusqu'à récemment, en fait, on n'avait quasiment pas de problème d'insectes ravageurs sur peupliers. Hein. On avait quelques espèces qui causent des problématiques ponctuellement ou localement, mais c'était des problèmes assez mineurs qui étaient cantonnés soit aux pépinières, soit à l'installation, soit sur des peuplements qui étaient de toute façon en mauvais état sanitaire, donc plutôt des ravageurs de faiblesse. Donc jusqu'à récemment, en fait, grosso modo, jusqu'à l'émergence du puceron laniger en France. Alors le puceron laniger, de son petit nom Phloemomyzus passerini, c'est un puceron qui est spécialiste des peupliers, qui se développe que sur peupliers, qui a une biologie qui est un petit peu particulière, puisque c'est un puceron qui se développe uniquement sur les troncs, pas sur les feuilles. Et par des travaux en fait, de biologie et écologie, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un insecte qui ne suçait pas la sève, contrairement à la plupart des pucerons. C'est un insecte qui va piquer dans l'écorce, qui va modifier les tissus de l'écorce, et qui, en faisant ça, va modifier en fait, un petit peu les réserves carbonées et azotées de l'arbre, ce qui va ensuite avoir un impact qui est assez sévère sur la plante. Alors, en termes d'impact, les dégâts, en fait, ils ne surviennent que suite à des pullulations qui sont généralement assez brèves et assez localisées. Là, vous avez un exemple de peupleraie qui subit une pullulation. Vous voyez les arbres qui sont indiqués avec des flèches rouges, en fait, vous voyez qu'ils n'ont pas exactement la même teinte, simplement parce que l'ensemble du tronc ici va être couvert de colonies de pucerons qui forment une espèce de feutrage gris blanchâtre, alors que les arbres au premier plan, là, par exemple, ne sont pas encore colonisés. Donc ces pullulations affectent des plantations de peupliers. En fait, c'est un insecte dont les pullulations n'ont lieu que dans les plantations, pas dans les peuplements naturels, il n'y a jamais eu aucun rapport là-dessus. Et qui va affecter des peuplements généralement de peupliers matures, donc ce qui est assez problématique pour le populiculteur, puisque la pullulation elle survient quasiment en fin de cycle, lorsque finalement, l'ensemble de la préparation a été faite, l'ensemble des soins a été apporté. Le populiculteur va revenir sur son investissement en faisant la coupe, et c'est à ce moment-là que les pullulations surviennent en général. Les dégâts sont aussi souvent plus marqués dans les peuplements vigoureux, donc là, on a typiquement ce qu'on appelle un parasite de vigueur, qui va préférer les peuplements vigoureux aux peuplements affaiblis. Alors les symptômes et dégâts en fait sont visibles non pas l'année de pullulation mais l'année qui suit la pullulation. Donc typiquement ce qu'on observe c'est des craquelements d'écorce, des nécroses corticales, la partie vivante de l'écorce commence à se nécroser, et puis ce qui est le plus spectaculaire et finalement aussi le plus problématique, c'est qu'au printemps vous avez une absence partielle ou totale de débourrement. Donc en gros vous avez des arbres qui ne font très peu de feuilles, voire pas du tout de feuilles. Bah, du coup, votre arbre, s'il n'a plus de feuilles, ça entraîne par voie de conséquence des pertes d'accroissement, et ça peut entraîner des mortalités massives. On peut avoir des taux de mortalité qui vont jusqu'à 70% du peuplement suite à une pullulation de pucerons. Donc, c'est une mortalité qui est assez rapide pour un problème pathologique, c'est-à-dire que là, l'arbre il peut mourir en 6 mois suite à une pullulation. Donc nous, avec nos travaux de biophysio, en fait, ce qu'on a mis assez simplement en évidence, c'est que quand vous avez un peuplement qui est infesté, un arbre qui est infesté, plus l'infestation est forte ou plus l'infestation est longue, et plus les réserves en amidon de l'arbre vont avoir tendance à réduire. Donc votre arbre va perdre ses réserves en amidon, ce qui va ensuite avoir des répercussions sur sa capacité à former des feuilles au printemps suivant. Moins il a d'amidon, moins votre arbre va être capable de produire une nouvelle floraison au printemps suivant. Vous avez même des arbres donc, qui ne peuvent pas du tout, et généralement les arbres qui ne peuvent pas du tout et qui ont les plus faibles réserves d'amidon suite à la pullulation sont ceux qui vont mourir. C'est les points noirs que vous avez ici. Et par voie de conséquence, bah, logiquement, moins vous avez d'amidon, moins vous avez de feuilles, moins vous avez de feuilles, plus vous perdez en croissance radiale. Alors par rapport à l'émergence de cet insecte, donc C'est un puceron qui est, en termes de distribution, assez cosmopolite. Hein. En vert, vous avez son aire de distribution naturelle probable. Donc c'est un puceron qui est, enfin, c'est un insecte qui est paléarctique, qu'on trouve de l'ouest de l'Europe jusqu'en Chine et en Afrique du Nord, qui a été introduit donc en Amérique du Nord, en Amérique du Sud aussi. Et bah, en fait, la première description de l'insecte, c'était en France, en 1875. Donc clairement, il s'agit d'un insecte qui est natif, hein, qui est issu de la zone d'introduction, entre guillemets, du peuplier cultivé. Jusqu'à récemment, c'était un ravageur qui était par contre plutôt localisé, même s'il est distribué assez largement à l'échelle de la planète. Les dégâts qui avaient pu être observés, ils étaient principalement en zone méditerranéenne, donc en Afrique du Nord, en Italie depuis les années 30, en Espagne depuis les années 40, et puis au Moyen-Orient, notamment en Iran, depuis les années 80. Et en France, les populations en fait remontent grosso modo au milieu des années 90. Donc ici, vous avez une carte qui avait été faite avec les données du département de la santé des forêts. Chaque département, vous voyez, présente une date qui est la date d'apparition des premières populations de l'insecte. Et plus c'est foncé, donc plus c'est récent. Ce qu'on voit assez bien sur la carte, en gros, c'est que les premières populations sont apparues grosso modo dans le sud-ouest. Et vous avez une progression régulière vers le nord de l'apparition des populations. Et actuellement, on considère que l'ensemble du bassin populicole français a subi des populations de pucerons la Niger. Vous voyez que la progression d'apparition de ces populations, elle s'est faite relativement rapidement, puisque ça a commencé grosso modo en 96, et qu'en 2015, on avait atteint le nord de la France. On a même dépassé les frontières, puisqu'il y a eu quelques signalements en Belgique. Alors par rapport à cette de progression vers le nord, donc un de nos axes de travail, ça a été d'essayer de comprendre pourquoi il y avait eu cette émergence et pourquoi il y avait eu cette progression vers le nord. Donc, plusieurs possibilités, soit c'était une souche de pucerons qui venait du sud, qui s'était propagée en France et qui avait, en se propageant, généré l'apparition de ces populations. Mais les travaux en génétique ont démontré que ce n'était pas ça en fait. Hein. Les populations elles sont dues à des populations locales de pucerons, donc il n'y a pas d'effet d'invasion du territoire par des souches méditerranéennes. Et donc, bah, vu qu'on a une progression vers le nord, ce qu'on supposait assez intuitivement, c'est qu'il y avait un effet du réchauffement climatique. Donc, pour tester cette hypothèse, on a étudié les besoins thermiques de l'insecte. En gros, on a regardé ses températures, l'étale inférieure, l'étale supérieure, son optimum de croissance. On a réalisé une modélisation de la croissance potentielle de l'insecte sur le territoire français. Et puis, à partir de là, on a déterminé un seuil critique de croissance potentielle d'apparition des populations, c'est-à-dire un espèce de seuil à partir duquel on est susceptible de voir apparaître des populations de l'insecte. Donc ça, c'était un travail de thèse qui a été réalisé par Sophie Pointeau, qui peut se matérialiser comme ça. Le seuil qu'on a déterminé en termes d'apparition de population, alors il n'y a pas d'unité, c'est un seuil qui est à 45. Donc de 45 à 100, ce que vous avez en orange foncé sur les cartes, sont des zones qui sont a priori favorables à l'apparition de population du puceron la Niger. Là, on l'a projeté sur deux périodes, 82-95, c'est-à-dire avant l'apparition des populations en France, 96-2011, après l'apparition des populations en France. Donc, ce qu'on voit en fait ici, si on compare les deux cartes, c'est qu'on a une progression de la croissance potentielle des populations depuis 96. Donc, avec le réchauffement, on a des conditions qui deviennent de plus en plus favorables à l'apparition de ces populations. On voit quand même que le seuil il est hétérogène en fonction des régions. En fait, si on résume la situation, c'est que sur cette partie nord, bassin populicole nord ici, la progression des zones potentielles d'apparition de population, ça colle assez bien avec la dynamique d'apparition des populations d'après la base de données du département de la santé des forêts. Donc, on a bien un réchauffement climatique qui explique ici l'apparition successive des populations dans la zone nord de la France. Par contre, ce qu'on voit aussi ici, c'est que théoriquement, avant qu'il y ait des populations déclarées, donc avant 1995, on avait déjà des conditions thermiques qui étaient favorables à l'apparition des populations de pucerons la Niger dans le sud-ouest et dans l'ouest de la France. Donc ça, du coup, ça sous-entend que le réchauffement climatique n'explique qu'en partie l'apparition des dommages. Ça peut expliquer la progression des dommages vers le nord, mais ça n'explique pas pourquoi c'est apparu à partir de 1996. Et donc une autre piste qui a été explorée par Christelle Robinet, donc une collègue de l'INRA d'Orléans, ça a été de voir si dans ces régions sud-ouest, il y avait une corrélation entre le pourcentage d'attaque et le nombre estimé de cultivars sensibles sur pied. Alors, sachant que c'est un petit peu compliqué, dans le sens où on n'a pas de statistiques qui permettent de savoir quelle est la surface plantée cultivar par cultivar en fonction des régions. Donc là, ce qu'elle a fait, elle a utilisé un petit peu une bidouille, hein. Elle a utilisé les ventes de plants régionalisées. Et passer un certain délai qui correspond à l'arrivée à maturité des plants. Et donc à partir de là, elle a fait une espèce d'estimation de la quantité de cultivars sensibles sur pied. Et donc là, vous avez une corrélation, alors qui n'est pas fameuse, mais qui est quand même significative, entre l'estimation du nombre de cultivars sensibles sur pied et puis le pourcentage d'attaque. Ce qui signifierait, alors ce qui demanderait quand même un peu confirmation, mais que l'implication des pratiques sylvicoles, enfin, ce qui suggérait l'implication des pratiques sylvicoles dans l'émergence du ravageur. Donc un double effet, réchauffement climatique, et puis modification quelque part du paysage populicole en termes de cultivars plantés, qui aurait, de façon combinée, permis l'apparition des populations, et puis ensuite leur progression vers le nord. Alors par rapport à cette émergence, évidemment, les questions qui étaient posées, c'était quelle stratégie de gestion, comment gérer ce ravageur? Donc il y a trois possibilités, hein. Soit réaliser de la lutte biologique, qui était ce que tous les populiculteurs voulaient, avoir une lutte biologique qui permette de réguler en gros naturellement et spontanément le ravageur dans la peupleraie. Avec l'idée pour le populiculteur qu'il n'y aurait rien à faire en fait, et que la lutte se mettrait en place toute seule. Sauf que nous, on n'a pas travaillé sur cet aspect-là, mais des travaux ont été faits en Italie et en Iran précédemment, et qui semblaient indiquer que bien qu'il y ait des prédateurs, bien qu'il y ait des parasites de ce puceron, ce n'est pas un mode de gestion qui est efficace, parce que la population, elle est explosive, hein, elle se met en place en quelques semaines, quelques jours, et du coup, il n'y a pas moyen pour la faune auxiliaire de stopper cet accroissement brutal des populations de ravageux. Deuxième possibilité, c'est la lutte chimique qui est utilisée, qui est massivement utilisée par exemple en Italie, qui est aussi utilisée en France, beaucoup moins massivement, qui peut être efficace si le timing est correct. Ça veut dire qu'il faut pouvoir traiter lorsque la population démarre. Alors c'est un petit peu compliqué parce que la population, en fait, le recouvrement des troncs, il démarre à la base des branches charpentières, donc en grosso modo à 15 mètres de haut. Il faut pouvoir regarder à 15 mètres de haut, voir l'apparition des premières colonies. Et à partir du moment où vous commencez à avoir un anneau se former de feutrage blanchâtre, c'est vraiment le moment parfait pour traiter. Techniquement, c'est difficile, alors pour plusieurs raisons. Donc déjà, il faut faire un suivi, il faut savoir quand la population démarre, il faut traiter au bon moment. Ensuite, il faut pouvoir traiter, c'est-à-dire il faut avoir accès à la zone de développement de la colonie, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir projeter votre insecticide à 15 mètres de haut. Avec des systèmes qui ne sont pas extrêmement toujours précis, ça peut se traiter à la lance, ça peut se traiter par brumisation, donc ça fait des choses qui sont, pour un naturaliste, qui peuvent être assez effrayantes à observer, en fait, quand on voit une brumisation de pesticides comme ça. Et puis vous avez aussi des problématiques au niveau de la zone où vous traitez, où vous positionnez, puisque vous êtes souvent en zone alluviale, et donc en zone alluviale, c'est pas toujours possible ou recommandé de traiter à proximité d'un cours d'eau. Donc il y a des soucis techniques à ce niveau-là. Et donc évidemment, hein, quand on voit la photo, on peut aussi avoir des problèmes d'acceptation, sachant que de base, une peupleraie a des problèmes d'acceptation. Si vous voyez passer un engin qui traite par brumisation dans une peupleraie, ça affecte encore plus l'acceptation de ce système de production. Le troisième axe sur lequel nous, on a plus précisément travaillé, c'est l'identification et la sélection de cultivars résistants à l'insecte. Sachant que dès que les populations sont apparues, on avait bien vu qu'il y avait des cultivars qui étaient plus ou moins sensibles. Et puis les collègues italiens, de toute façon, avaient déjà observé une variabilité en termes de sensibilité selon les cultivars qui étaient utilisés. Donc à partir des tests italiens et puis un peu iraniens, on a procédé à un développement de tests de criblage précoce pour estimer de manière assez rapide la sensibilité en utilisant notamment des boutures. L'objectif étant ici d'utiliser un matériel qui a juste 1 ou 2 ans. On peut tester en laboratoire de manière relativement simple, ce qui est beaucoup plus rapide que d'attendre que votre peuplement soit mature et puis se fasse coloniser par des pucerons. Donc le test, il est basé sur les performances des insectes, notamment sur leur capacité d'installation et de multiplication. Et Pour simplifier, en fait, notre test, il permettait de séparer les cultivars en trois groupes, soit des sensibles, où il y a à la fois installation des insectes et puis multiplication, des cultivars non sensibles, où les insectes ne peuvent pas s'installer et où du coup il n'y a pas de multiplication, et puis des cultivars moyennement sensibles, où il y a l'installation qui est possible, mais la multiplication est affectée. Donc on a réalisé ces tests sur 28 cultivars. Donc sur les couleurs qui vous sont présentées ici, en rouge sont les sensibles, en vert les non sensibles, et puis en orange les moyennement sensibles. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement sur la gamme de cultivars testés assez peu de sensibles. Malheureusement, parmi ces sensibles, il y a le I214 qui était le cultivar le plus planté en France durant cette période. Donc le test, en fait, tel qu'il est, il permet une identification précoce des cultivars à risque. Par contre, ce n'est pas équivalent à une validation au champ qui est toujours meilleure en termes d'estimation de sensibilité. Seulement, la validation au champ, voilà, il faut attendre que vous ayez des peupleurs immatures et il faut attendre qu'éventuellement une population se déclare dans votre peuplement ou dans un peuplement à côté pour être sûr que votre cultivar il est effectivement résistant ou potentiellement sensible. Et le test, évidemment, il a pas non plus, il procure pas une garantie de résistance puisque vous développez un test à un moment donné, mais rien ne vous dit que l'insecte ne va pas développer des stratégies de contournement de résistance sur le pas de temps. Donc, pour conclure, en fait, par rapport à l'émergence du puceron à Niger en France, c'est un phénomène qui a été assez rapide, donc, qui est en partie lié au changement climatique et probablement aussi en partie lié aux pratiques sylvicoles et notamment à la composition du paysage en termes de cultivars. Un impact important sur la composition du paysage populicole français, puisque ça a entraîné le retrait de certains cultivars sensibles, notamment le I214, qui était un cultivar d'élite, qui était le plus vendu avant ces problématiques de population. Donc il a été retiré de la liste des cultivars éligibles aux aides de l'État. Il est encore quand même planté ponctuellement. Vous avez des populiculteurs qui font une forme de pari en fait où ils vont planter du I214 parce que c'est quand même un cultivar qui a des qualités, notamment en termes de déroulage, qui sont supérieures. Et donc ils font quelque part le pari de se dire que si leur peuplement passe au travers de la population, bah, ils auront un rendement qui sera supérieur au final. Ça a aussi entraîné un frein au déploiement de cultivars potentiellement sensibles. Par exemple, le cultivar Vesten qui était pressenti pour avoir un bel avenir, en fait, il se trouve que dans notre test en laboratoire, on l'a estimé sensible, équivalent en termes de sensibilité au I214. Et donc, il n'a pas été retiré de la liste éligible aux aides de l'État, mais il a été, vous avez un petit label comme quoi il est mis sous surveillance sanitaire, ce qui évidemment freine un petit peu sa commercialisation et son utilisation au champ. La problématique, si vous voulez, avec le Vesten, c'est qu'il est sensible au laboratoire, mais on n'a jamais pu vérifier qu'il était effectivement sensible en conditions naturelles. Donc il y a toujours un doute sur sa sensibilité avérée en conditions naturelles. Par rapport à ces conséquences, en fait, on a une situation qui est finalement assez similaire à celle qu'on a pu observer avec les comportements de résistance par les rouilles foliaires. Vous avez eu brutalement, en fait, émergence d'un nouveau ramageur en termes de champignons, qui a eu des impacts très très forts en termes de paysage populicole. Et donc, bah, finalement, en termes de recommandations, c'est un petit peu voilà, le principe finalement, la solution, tout le monde la connaît, mais elle n'est pas forcément facile à mettre en pratique. Évidemment, ce qu'il faudrait logiquement, c'est conserver un paysage populicole qui serait diversifié en termes de cultivars, en termes de pratiques, mais à une échelle à l'échelle paysagère en fait, avec en fait un mélange de cultivars présentant différentes stratégies de résistance plutôt que d'avoir une poignée de cultivars d'élite. Mais c'est pas forcément si facile à mettre en pratique, quoi. Voilà, j'ai terminé. Donc, si vous avez des questions. N'hésitez pas.